Culture vive, Yasmine Chouaki.
Ouvrir le nouvel album de Bernard Lavilliers, c'est croiser du monde, des drames, des anarchistes, des mercenaires, des marins échoués, des femmes métaphores. C'est refaire aussi un petit tour de manège géopolitique, s'offrir un samedi soir à Beyrouth au bras d'un Bernard, mythe véritable du chanteur voyageur. En gros et en vrac, c'est écouter une conversation musicale entre Kingston et Memphis, et c'est croire aussi deux secondes que Léo Ferré tape le bœuf avec Bob Marley. Un album paru chez Barclay, une tournée en France et une petite bavette avec RFI, c'est le futur proche de Nanar, notre invité dans Culture Vive.
Samedi soir à Beyrouth, femme voilée, dévoilée, bloquée sur l'autoroute, dans leur voiture blindée. Samedi soir à Beyrouth, univers séparé, solitaire sous la voûte, céleste.
Bonjour Bernard Lavilliers.
Bonjour.
C'est bon de retrouver vos yeux bleus dans ce studio. Toujours bleu. Il n'y a rien à répondre à ça.
Pour l'instant, je ne vous ai pas revendu, non.
Vie souterraine, presque emmurée, comme une reine très courtisée, moitié charnelle, moitié rêvée. C'est donc la vision que vous avez eue de Beyrouth quand vous y êtes allé il y a 2 ans maintenant.
Moi, j'y suis retourné il y a 2 ans. Je connaissais depuis 82. C'était une autre ville en 82. C'était un peu différent. C'était un peu plus dangereux. Mais finalement, Beyrouth est toujours à la fois fêtarde et dangereuse. C'est à la fois souterrain parce qu'on comprend jamais vraiment ce qui se passe. Et voilé parce qu'il y a une partie des femmes voilées, une autre partie de ces très belles femmes d'ailleurs du Proche-Orient qui sont dévoilées, qui sont occidentales et qui se croisent dans les rues, certaines en burqa complètement, d'autres très très Saint-Germain-des-Prés. Donc c'est une ville assez bizarre parce qu'au fond elle est très complexe, cette ville, le pays en général, hein. Mais Beyrouth ou Byblos, mais Beyrouth quand même c'est la capitale, enfin c'est là où ça se passe. Finalement, et au sud du Liban aussi, mais enfin déjà le sud de la ville est déjà... Vous savez que c'est pas très grand le Liban, hein, ça fait... C'est en 3 heures, on fait nord-sud hein, en voiture. C'est grand comme la Gironde.
On n'a pas fait le tour de la question par contre en 3 heures.
Non, alors, ni en 30 ans. Il
faut préciser que vous y êtes allé au moment de l'affaire des caricatures de Mahomet.
Ouais.
Et quelle était la température mentale à ce moment-là au Liban autour de cette question qu'on peut résumer par est-ce qu'on peut faire de l'humour avec la religion? Je ne sais pas si ce débat est arrivé jusque-là à ce moment-là.
Quoi qu'il était ailleurs, il était dans d'autres pays, il n'était pas encore arrivé à Beyrouth, ou il était sous-jacent. En tout cas, moi je suis arrivé à un mercredi, et effectivement le dimanche matin, il y a eu des gens qui sont arrivés de Syrie, de toute évidence, hein, pour brûler le consulat du Danemark. Enfin, ils sont arrivés quand même assez nombreux en bus, c'était des bus de Damas, parce que je les ai filmés, et ils avaient des armes, hein. C'était pas uniquement des bâtons et des fourches, c'était quand même assez violent, ce qui pouvait, on pouvait imaginer que la guerre civile à l'intérieur du Kater Chalief pouvait redémarrer, d'ailleurs, dans l'heure qui a suivi. Chose extraordinaire, c'est que ça s'est quand même calmé, et qu'au fond, ça s'est pas produit, et que même tous les chefs religieux ont appelé au calme et à la maîtrise de soi.
Donc, Beyrouth ou le Liban, c'est un pays suffisamment symbole pour vous, pour y planter le drapeau de votre nouvel album?
Oui, complètement, parce que c'est le Moyen-Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient, vous voyez, ça se touche, hein. J'étais au sud du Liban, après, en face du Golan. Il y a des vents qui arrivent de Syrie, des vents qui arrivent d'Irak, des vents qui arrivent de Palestine. C'est traversé par des vents, des courants, des extrémistes qui en profitent, des hommes politiques très corrompus au Liban, une armée libanaise qui est assez étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, les forces libanaises, maronites, enfin bon, tout ça est très compliqué. Je ne vais pas faire une analyse politique, c'est impossible. Mais disons que c'est quand même un lieu où on peut imaginer que c'est un œil du cyclone. Il y en a d'autres dans le monde entier, mais dans ce pays-là, dans cette ville particulièrement, tout ça étant tout très proche, hein, finalement, on n'est pas loin des déflagrations qui peuvent agiter la planète dans pas longtemps.
Et c'est ce qui vous inspire en fait, hein. C'est toujours les lieux troubles, parce qu'on dit le voyage quand on parle de Bernard Lavilliers, mais en fait c'est surtout les lieux où où il se trame quelque chose.
Ouais, c'est ça. Et d'autre part, le fait de savoir comment les gens vivent aussi, et c'est ainsi que les hommes vivent, justement.
Mm-hmm, ça nous rappelle quelque chose.
Le poème d'Aragon, mm-hmm. Comment les femmes vivent, comment les artistes continuent à créer, comment au quotidien les gens arrivent à avoir des rapports normaux, et pas tout le temps des rapports de force, et comment à la fois ces gens-là ont le sens de l'abstraction et se foutent en même temps de la guerre, d'une forme, parce que depuis 75 ils sont en guerre, peut-être même avant d'ailleurs, mais enfin bon, ils ont une espèce d'expérience, et c'est l'omerta, ils n'en parlent jamais, ça peut claquer par là, ça se rapproche, mais ils n'en parlent pas. D'ailleurs, c'est pas une question qu'on doit poser aux gens de Beyrouth ni aux Libanais, ils parlent jamais de leur guerre.
Est-ce que le voyage a aujourd'hui le même charme aujourd'hui qu'il y a 30 ans pour vous?
Ah oui. Parler à un convaincu. Oui, bien sûr, moi, dès que je me déplace, enfin, je vais pas évidemment dans des pays, vous voyez, le charme de la Suisse, c'est tout relatif.
Méchant.
Ouais, surtout qu'ils font les malins, les Suisses, parfois. Donc, quand on les voit ailleurs, d'ailleurs, ils sont un peu moins flamboyants, mais...
Il y a un portable, ça ?
C'est pas le mien. Non, ça peut pas être le mien.
Alors, regardez la grande professionnelle qui va éteindre son portable en direct.
Ouais.
Je vous présente.
Non, je vais dans d'autres endroits qui sont un peu plus étranges. Mais si vous voulez, ce qui m'intéressait aussi à Beyrouth, hein, particulièrement, mais j'étais ailleurs. Parce qu'il y avait quelques villes à la dérive. Si vous regardez bien, je commence par Beyrouth. Après, j'ai fait ses rythmiques, une bonne partie de l'album, à Kingston, que je vous confirme n'est pas une ville touristique. Je vous conseille pas d'aller faire du tourisme à Kingston en Jamaïque.
Je crois sur parole, oui.
Ouais, ouais. Mm-hmm. Allez plutôt à Port Antonio, c'est plus sympa. Non, le reste, Negril, tout ça, c'est trop touristique. Et Memphis, c'est une ville paumée, pareil. C'est une ville, je savais pas, mais c'est une ville complètement disloquée par la chute du coton, par la mort aussi violente de Martin Luther King, qui a pas dû arranger leurs histoires. Et finalement, la soul, les derniers studios, le Stax, tout ça, et même le Sun ont fermé dans les années 70, 77. Il reste plus que le Willie Mitchell, qui est la sentinelle.
Le studio de Memphis, donc.
Oui, la sentinelle et le créateur, et un des créateurs, un des survivants de la soul.
Quoi. Mais est-ce que c'est... Comment ça se passe quand, au bout de 30 ans, on se balade comme ça, comme vous le faites, de par le monde, de par les musiques du monde, de par la langue aussi? Comment est-ce qu'on fait pour amener à chaque fois un album fort? La question, c'est est-ce que c'est compliqué de pondre un 18e album comme samedi soir à Beyrouth?
Ah oui, c'est pas simple, parce que surtout quand on se met dans la tête qu'il faut pas redire sans arrêt la même chose et que j'ai pas le même style, il faut quand même que ça m'amuse, donc je vais pas refaire les barbares, vous voyez, depuis le début.
Mm-hmm. Il y a certains
chanteurs qui font ça, mais moi, alors, ça m'emmerderait prodigieusement, donc... ils sont toujours là, évidemment, les barbares. D'ailleurs, dans un texte que j'avais écrit en 77, j'expliquais que la petite gauche vivotait frileuse comme une alouette. Et qu'au fond, la petite gauche, c'est toujours la même, elle n'a pas changé. Hein. Donc c'est assez étonnant, ça.
Donc la petite gauche, vous lui donnez une petite droite, peut-être, dans Ordre Nouveau.
Oui. Peur ne me tuera pas, ni les barbares, tenant les zones de nos droits. Je n'irai pas jusqu'à trahir, jusqu'à haïr des gens. Ordre nouveau, je n'aime pas ce que je vois. Toutes ces mesures, ces salades, on connaît ça. Si ça rassure, de source sûre, je n'en ai qu'une. J'entends ce que tu n'entends pas. Je suis pas un ange, j'ai pas la voix, ça te dérange, pas moi. Je suis pas impur, j'ai pas la foi, mais j'ai la rage, crois-moi. C'est pas nouveau, j'y
n'irai pas sur ce terrain-là. Manipulé par des tyrans petits bras, jusqu'à détruire le moindre désir de s'en sortir vivant. J'en ai encore le droit, je suis pas un ange, j'ai pas la voix, ça te dérange, pas moi. Je suis pas impur, j'ai pas la foi, mais j'ai la rage, crois-moi.
Bernard Lavillier, notre invité dans Culture Vive avec Samedi Soir à Beyrouth, nouvel album, avec cet extrait Ordre Nouveau, qu'on va mettre dans la catégorie Indignation.
Oui, c'est... Je l'ai écrit à Beyrouth aussi d'ailleurs, parce que finalement, quand il y a eu la grosse manif le lendemain où les gens ont décidé de ne pas sortir les Kalachnikovs du grenier, j'ai trouvé pour une fois que j'étais d'accord avec mes frères humains. J'ai trouvé que c'était pour une fois intelligent, ce qui quand même n'est pas le cas tous les jours. Donc j'ai écrit « La peur ne me tuera pas », c'était pas moi dont il s'agit. C'était justement la réaction de ces gens-là. Et la peur leur avait pas infligé, pour la énième fois, le chantage du pouvoir. Donc, c'est parti de là. Puis après, j'ai imaginé qu'au niveau mondial, il y avait quand même une sorte de... Le nazisme avait repris un peu du poil de la bête à travers d'autres méandres, mais bon, qui avaient du radicalisme dans l'air, enfin pire que ça même, de l'ostracisme, du racisme. Donc j'ai tendu, puis je me suis souvenu aussi qu'en 72-13, on se foutait des grands coups de barre de fer avec des mecs d'Occident qui étaient étudiants à Dassas, et après ils se sont appelés Ordre Nouveau, et il y en a qui sont ministres et députés dans le gouvernement actuel. Donc je vais pas aller jusqu'à citer leur nom, mais on pourrait rigoler deux minutes.
Donc c'est un peu une revue de presse cet album, on peut l'écouter aussi comme ça, non?
Ah, vous avez plusieurs lectures, oui, exact.
Avec votre bouteille d'eau qui fait très homme politique, là.
Oui, mais j'ai pas le droit de boire d'alcool, là.
Non, c'est défendu. Si on fait un tour de piste de cet album... Qu'est-ce qu'on peut dire d'une chanson comme Solitaire? J'ai relevé une phrase quand même, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe chez Nana? Vous dites, je suis plus seule qu'avant, à cause de la rage crucifiée. Je vous cite encore, ça c'est sur une autre chanson.
Oui, mais c'est pas à cause de ça. Non, c'est une chanson pour les artistes qui se plaignent tout le temps de jamais pouvoir écrire et d'être dans un état. Donc je me fous un peu de la gueule.
C'est une autocritique?
De moi et des autres aussi. C'est un rappel à l'ordre en disant, il y a des choses pires que d'être devant une feuille blanche et de pas trouver quoi dire. Disons, quand on est à Beyrouth sous les bombes syriennes ou israéliennes, c'est beaucoup moins drôle, à mon avis. Donc, il y a des choses pires que ça, que l'écriture, qui n'arrive pas, qui vient pas.
Mais vous n'êtes pas du genre génial, vous,
si ? Ah, pas du tout, c'est pour ça que je me fous de ma gueule là-dedans. En interprétant un interprète ou un auteur qui lui-même ne trouve pas et qui se plaint, je suis toujours au quatrième degré, rien qu'au début de la chanson.
D'accord.
Donc à la fin, vous imaginez un peu.
Rafale, c'est quel degré? Parce que vous y faites l'éloge du vent. On peut dire ça comme ça, je sais pas à quel degré.
C'est l'éloge du vent, mais c'est l'éloge de... C'est l'éloge de quelqu'un, d'un dieu, je dirais, voilà, moi je suis plutôt animiste comme garçon. Donc d'un dieu qui serait le bien et le mal à la fois. C'est-à-dire que le vent pousse les voiliers, fait tourner les éoliennes, mais peut aussi déraciner, massacrer, pousser les feux de forêt, éliminer la race humaine, le vent, si vous voulez. Donc j'aime bien le côté double de... J'aime pas tellement le côté manichéen de Dieu est bon, le diable est mauvais. Moi,
ça se saurait, oui.
J'ai plusieurs dieux qui font que je m'arrange avec. Des fois, il y en a un qui est mauvais, donc je me dis, il est prof fréquentable, donc je vais aller voir celui qui m'a l'air accueillant. Voilà.
Un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
Oui.
Boss, tout le monde y voit le slogan « Travailler plus pour y gagner quoi ?»
Pour gagner,
chanson boss.
Pour gagner pas grand chose, surtout que ça marche pas vraiment depuis que c'est en route, ce truc-là, cette usine à gaz. Non, c'est-à-dire que je suis parti de ce slogan... que je trouve très près de Carrefour, ça doit être un des mêmes Auchan ou un truc comme ça.
Oui, genre. Et grands centres commerciaux.
Mammouth écrase les prix, ça me fait un peu penser à ça.
On les embrasse, oui.
Voilà, les mammouths, oui, surtout les socialistes. Donc, ils racontaient à peu près la même chose sur le travail, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Et alors, ce qui me faisait le plus marrer, c'est que l'un et l'autre ont traité Enfin, lui, il allait plus fort. Il disait, oui, ceux qui ne se lèvent pas tôt le matin, c'est vraiment des branleurs. Et ceux qui ne se lèvent pas tôt le matin, c'est qu'ils n'avaient pas de boulot. Ils avaient beau se lever tôt, ils allaient à la NPE, on leur disait, il n'y a toujours pas. Ou alors, si vous voulez laver les carreaux de la maison de la radio, on vous embauche deux jours. Alors, si c'est ça, réduire le chômage, c'est une version des faits, on va dire. Hein. Mais moi, en opposition au mythe, la sacralisation de ce fameux travail, qui, n'oubliez pas, au Moyen-Âge, était... C'était un mot qui était employé pour la torture. Finalement, les nobles n'ont jamais travaillé. C'est toujours les manants qui ont travaillé à leur place. Hein. Il a fallu la Révolution française et encore plusieurs révolutions avant que les nobles travaillent.
Et c'est un fils de travailleur qui vous le dit.
Exact.
Une question de vilain défaut, est-ce que vous l'engagez, l'anarchiste, est-ce que vous ne votez toujours pas ?
Non. Ah ben non, mais quand je vois comment il se comporte, en plus, ça me conforte dans l'idée de me tenir à l'extérieur. Ça m'empêche pas de dire ce que je pense.
Oui, vous êtes là pour ça d'ailleurs.
Oui, mais il vote une fois par an, moi je peux parler tous les jours.
Alors, Attendu, ça c'est un des textes forts de l'album, c'est un texte, je sais pas si vous pouvez nous le chanter de mémoire à la limite, un texte radical sur Dieu et les hommes.
Oh ben, c'est-à-dire que ça c'est un texte de Pierre Porte, donc c'est un texte des années 40, ce doit être un résistant je pense, c'était un type qui a été un grand éditeur mais qui a écrit deux bouquins. Il me plaît ce texte parce que au fond il dit quelque chose de très important. Attendu que le monde est fabricant de boue, que les genoux de l'homme sont noirs dès qu'il tombe ou qu'il regarde Dieu. Dès qu'il regarde Dieu, toujours propre et debout, parce que Dieu est propre, hein, dans toutes ces guerres, toutes ces histoires de sang, il y est pour rien. C'est ça que je trouve absolument hallucinant. Le fait que votre père se fasse massacrer par quelqu'un d'autre, qui pense pas que c'est le même Dieu, ça vous dérange personne. C'est ça qu'il y a de bien. Je devrais être Dieu, moi, je trouve que c'est super.
Ça produit des belles chansons, en tout cas. Ouais. Je le disais en début d'émission, cet album Bernard Lavilliers est à écouter comme une conversation entre Memphis et Kingston, vos deux ports d'attache musicaux.
Et Beyrouth.
Oui, pour les paroles, en tout cas. Ouais, l'idée, c'était quoi, musicalement ?
L'idée, c'était de... C'est-à-dire que l'idée, elle vient d'un réalisateur qui me dit « Ouais, t'as une voix de soul, tu te rends pas compte, t'as jamais chanté de soul. » J'ai dit « Non, Marvin Gaye, il a une voix bien plus aiguë que moi. » Et le seul avec lequel je peux me comparer, c'est Isaac Hayes. Mais je veux bien t'en écrire deux, mais d'abord on va en Jamaïque, on fait des rythmiques, et puis on va essayer surtout de se faire des arrangements cordes et cuivres par les gens de Memphis, parce que le mélange des deux n'a jamais été fait, voilà.
Donc ça a permis de j'allais dire, rafraîchir le reggae, mais non, le reggae a toujours le même charme à vos oreilles, mais quand même, ce besoin de le métisser.
C'était un risque intéressant d'y mettre un peu du sucre de la soul dans le poivre et dans la rythmique assez magnifique. Vous savez, les tempos lents, c'est très dur à jouer hein, pour un musicien, moi y compris. Mmh. Et les Jamaïcains sont les seuls, à mon avis, à pouvoir jouer du dub très lent, en étant tout le temps intéressant, ce qui est extrêmement rare.
Merci Bernard Lavilliers. L'album Samedi soir à Beyrouth qui vient de paraître chez Barclay part en tournée à votre bras, tournée en France jusqu'en juin, avec notamment le Zénith de Paris les 13, 14 et 15 mars. Un mot pour dire de quoi sera fait le concert ?
Ben, j'ai les cordes et les cuivres qu'il me faut, c'est-à-dire j'ai pris des mecs qui jouent à la fois des cordes et des cuivres. Donc on a... qui jouent du banjo, du oud, enfin... J'ai 8 musiciens qui jouent chacun des instruments aussi différents que le trombone et le violon zigane, que le saxophone et le violoncelle, vous voyez, et que la trompette et le banjo, par exemple.
Merci, on se quitte avec Maria Bonita et on se retrouve juste après le journal.
Elle. Obscure diva de tous les forçats, qu'ils soient albanais ou bien grecs. Froide des flots verts qui battent les falaises grises. La chanson connue des îles perdues aux nuits infinies des banquises. Mais c'est des histoires que racontent aux escales un marin.